De mon temps, en primaire, en plus des récitations genre « La chèvre de Monsieur Seguin », il faut aussi apprendre par cœur des tas de dates historiques. Je me souviens de Marignan, 1515. Par contre, on ne nous a rien dit concernant 313. Et pourtant, c'est une date importante, mais seulement dans le contexte du christianisme. En effet, c'est en cette année que l'empereur Constantin promulgue l'édit de Milan qui donne à l'Église le droit d'intervenir dans les affaires de ce bas monde en propageant légalement et ouvertement la foi en Jésus-Christ. Cependant, cette nouvelle liberté est une épée à double tranchant car elle va dans les deux sens. Ce qui fait que les valeurs morales et religieuses du IVe siècle s'introduisent avec la force d'un ouragan dans les assemblées chrétiennes, diluant considérablement leur message originel. Ce processus dure 12 siècles, jusqu'au moment de la Réforme. Pourtant, au dire de l'apôtre Pierre, dans le chapitre 2 de sa seconde lettre, il est évident que les fausses valeurs du paganisme vont envahir l'Église de Jésus-Christ bien avant que Constantin n'apparaisse sur la scène politique du Moyen-Orient. Dans le premier chapitre de sa seconde lettre, Pierre défend la légitimité de son autorité de façon à la fois magistrale et poignante. Sachant sa mort prochaine, il veut tout mettre en œuvre et se donner tout entier à la tâche pour qu'après avoir quitté son corps, qu'il appelle une tente, les croyants auxquels il s'adresse restent vigilants et fermes dans la foi. Conformément à l'enseignement de la loi de Moïse, Pierre cherche à prouver sa crédibilité en s'appuyant sur un double témoignage, celui des prophètes de l'Ancien Testament et le sien lorsqu'il a assisté à l'événement inoubliable de la Transfiguration. Sur la montagne, en compagnie de l'apôtre Jacques et Jean, Pierre a vu le Christ glorifié et entendu le Père attester la divinité de son Fils. Deuxièmement, il rappelle que les prophètes et tous les auteurs de l'Ancien Testament sont dignes de foi. Ils ont transmis des messages véridiques sur lesquels on peut s'appuyer. Si Pierre choisit de rapporter la Transfiguration plutôt que le baptême de Jésus, c'est parce qu'elle met déjà l'accent sur la glorification du Seigneur, sa résurrection et le jugement à venir, doctrine que rejettent les enseignements de mensonges, qui commence déjà à s'introduire dans les assemblées chrétiennes. Dans le récit que fait Matthieu de la Transfiguration, le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le !» Mais quand Pierre rapporte cet événement, il omet l'impératif « écoutez-le » parce que le Fils, étant retourné auprès du Père, c'est désormais aux apôtres qu'il incombe de transmettre les paroles du Christ, et ce sont eux qui doivent être écoutés. Je commence maintenant de lire le second chapitre de la deuxième épître de Pierre. Autrefois, il y eut des pseudo-prophètes, des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces pseudo-enseignants, ces enseignants de mensonges, introduiront sournoisement parmi vous des hérésies qui détruisent. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Pierre avertit les croyants qui doivent rester vigilants afin de pouvoir distinguer l'enseignement véridique du mensonge. Comme je l'ai déjà dit, des descriptions frappantes et pénétrantes qu'il fait des hérétiques peut se comparer à celle de Jude. Cependant, c'est Pierre qui écrit le premier parce qu'il emploie le futur. Ce qu'il décrit arrivera surtout après son départ de cette terre. Jude, par contre, utilise un temps de verbe qui montre que les apostats sont déjà bien implantés dans les assemblées chrétiennes. Le fait que la seconde épître de Pierre et celle de Jude se recoupe a conduit certains commentateurs vindicatifs à conclure que l'un a copié sur l'autre. Ils choisissent d'ignorer que les redondances sont très fréquentes dans les textes sacrés parce que chaque fois que Dieu estime un enseignement important, il le répète deux ou trois fois. C'est un peu comme les « en vérité » de Jésus que rapporte l'apôtre Jean. Un seul « en vérité » aurait amplement suffi. Mais comme il y en a deux, j'ai intérêt à tendre l'oreille et à prendre note. Au prophète de mensonges de l'Ancienne Alliance correspondent les enseignements de mensonges du Nouveau. Plus loin, Pierre évoque un sombre personnage nommé Balaam, qu'il le présente comme l'archétype, l'exemple type et le chef de file des faux prophètes de l'Ancien Testament. Pierre ne précise pas à quelle école se rattachent les imposteurs qui commencent tout juste à répandre leur venin parmi les croyants. On sait par contre qu'environ trois décennies plus tard, dans les lettres aux sept églises d'Asie Mineure, l'apôtre Jean parle d'un groupe appelé Nicolaïtes. Il se trouve à Pergame, à Éphèse, deux villes situées à l'ouest de l'Asie Mineure, au bord de la mer Égée. Et ils se réclament de la doctrine de Balaam. Parmi eux, certains vont même jusqu'à se proclamer apôtres. Dans la ville de Thyatire, une femme se disant prophétesse enseigne et séduit des croyants pour qu'ils se livrent à l'immoralité. De nombreux passages du Nouveau Testament avertissent les croyants qu'à toutes les époques, ils doivent être sur leur garde contre les attaques de Satan, leur ennemi juré qui utilise tous les moyens à sa disposition pour enrayer l'œuvre de Dieu sur terre. Son rayon d'action est le monde entier et la panoplie de ses armes est très variée, mais il est surtout spécialisé dans les imitations frauduleuses et les activités trompeuses. Sournois par définition, il utilise des personnes ayant une pseudo-foi en Jésus-Christ. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que ces imposteurs sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? La stratégie de ces loups en vêtements de brebis est de s'infiltrer incognito dans de vrais troupeaux de Dieu et de prendre de l'importance afin d'être écouté. Ensuite, et sous prétexte d'enseigner la vérité, ils corportent leur doctrine mensongère démoniaque, ce qui rend ces imposteurs particulièrement dangereux et qu'ils enrobent leurs mensonges par une part de vérité pour les rendre acceptables aux yeux des brebis qu'ils cherchent à dévorer. S'ils annonçaient une doctrine qui est fausse à 100%, ils le passeraient pour des charlatans et ne tromperaient pratiquement personne. Mais c'est rarement ainsi qu'il se présente. L'apôtre Paul a mis en garde les responsables de l'église d'Éphèse en leur disant « Je le sais, quand je serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. Si certains de ces loups cherchent délibérément à tromper, d'autres sont eux-mêmes les victimes d'une contrefaçon. Mais en définitive, ça ne change pas le résultat final, car même s'ils colportent un mensonge, en toute bonne conscience, ils introduisent les croyants crédules en erreur et cette gangrène se propage. On peut être le porteur d'un virus très dangereux sans le savoir, mais ça ne diminue en rien sa nocivité. Sous l'Ancienne Alliance, et dans presque tous les cas, les faux prophètes ne sont pas issus des nations païennes environnantes, mais des Israélites. De même, sous la Nouvelle Alliance, les faux docteurs et leur hérésie proviennent du sein de la chrétienté, ce qui leur donne un air de légitimité suffisante pour introduire en erreur ceux qui n'ont pas une foi personnelle en Jésus-Christ et parfois même de véritables croyants. Voilà pourquoi, depuis que Dieu a commencé à se révéler, les Écritures mettent les chrétiens sincères en garde contre les faussaires religieux afin qu'ils puissent les repérer et ne pas se laisser berner par ces oiseaux de malheur. Dans le livre du Deutéronome, on lit que Dieu dit à son peuple « Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, vous annoncera un prodige. si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est à l'Éternel, votre Dieu, que vous rendrez un culte. C'est lui que vous révérerez. Vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez, c'est à lui seul que vous rendrez un culte. Et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce visionnaire, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage. Car il aura voulu vous entraîner hors du chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de suivre. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Oui, mais les Israélites n'ont pas obéi à cette règle, et le résultat fut catastrophique pour leur nation. Le royaume des 10 tribus du Nord n'a pas eu un seul roi fidèle à l'Éternel. Tous se sont idolâtres et s'entourent de faux prophètes. Un exemple type de ce phénomène est ce qui se passe sous le roi Akab. Un jour, ils décident d'attaquer les Syriens pour leur reprendre une ville qu'ils avaient conquise. Mais, avant de se lancer, ils demandent le concours de Josaphat, roi de Juda, qui veut bien soutenir cet effort de guerre à condition de consulter d'abord l'Éternel afin de s'assurer qu'il le sera favorable. Le roi d'Israël acquiesce et dans le texte du premier livre des rois, on lit qu'il rassembla les prophètes qui étaient environ 400 et leur demanda « Dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent « Vas-y, le Seigneur la livrera au roi !» Mais Josaphat insista « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël lui répondit « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon. Il ne m'annonce que du mal. Il s'agit de Michée. » Mais comme Achab a besoin du soutien de Josaphat, il fait appeler Michée de sa prison qui, après quelques jeux de scène, donne le verdict de l'Éternel. J'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverain. Que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, je te l'avais bien dit, cet homme-là ne me prophétise jamais rien de bon. C'est toujours du mal. Mais Michée continue. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Il est bien regrettable que Akab n'a pas écouté la parole de Michée, parce que comme prédit, il a péri dans ce combat. Quelqu'un a dit, et bien dit, que les sectes prolifèrent comme des champignons sur la pourriture de l'Église. Comme c'est en grande partie vrai, jusqu'à la fin des temps, il y aura des imposteurs religieux. Concernant son retour, Jésus dit à ses disciples, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. » Pierre dit aussi, que ces enseignants de mensonges introduiront sournoisement des hérésies qui détruisent. Introduire sournoisement est un seul mot en grec et signifie s'infiltrer, s'introduire furtivement. Le mot pour hérésie n'a en apparence rien de bien méchant puisqu'au premier siècle, il veut simplement dire école de philosophie. Mais les auteurs du Nouveau Testament utilisent ce mot pour décrire une opinion qui se substitue à la vérité et qui conduit à la formation de sectes opposées à Jésus-Christ. L'enseignement hérétique des imposteurs religieux est donc bien une contrefaçon mortelle. Les hérésies fondées sur de fausses doctrines ne portent jamais sur des points de détail, mais sur le maître lui-même qu'il renie à l'exemple de Judas. À l'époque de Jésus, les pharisiens, et dans une moindre mesure les sadducéens, sont des sectes judaïques dangereuses qui prônent une fausse religion. Ces religions, qui sont aussi les chefs du peuple, répandent un enseignement qui vient du malin, parce qu'il éloigne les âmes de Jésus et les conduisent à la ruine éternelle. Ce n'est donc pas surprenant que les religieux juifs aient rejeté le Christ et comploté son assassinat. On fait souvent porter le chapeau de ce meurtre aux Romains, mais les chefs du peuple sont les premiers coupables. Se faisant passer pour de vrais bergers, Pierre dit que les imposteurs religieux introduiront des hérésies qui détruisent. Détruisent est un nom qui signifie une ruine totale. En d'autres mots, ces faux frères donnent un enseignement dont les conséquences sont désastreuses tant pour eux-mêmes que pour leurs adeptes, car il conduit à la ruine spirituelle et à la perdition. Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par « détruise » a le sens de « condamnation éternelle ». En effet, il est utilisé par Jésus pour décrire ceux qui passent par la porte large qui mène à la perdition, et a évoqué le sort réservé à Judas. Par ailleurs, ce mot est aussi utilisé par l'apôtre Paul pour décrire l'état de perdition réservé aux non-croyants, ainsi que le jugement final de l'Antichrist. Enfin, Pierre l'utilise un peu plus loin dans cet épître également pour décrire le châtiment des impies. Les sectes donnent toujours un enseignement contraire aux Écritures dans bien des domaines, mais surtout en ce qui concerne le salut, ce qui entraîne le châtiment éternel de leurs adeptes. Que ce soit la scientologie, qui est de temps en temps à la une des journaux à cause de l'acteur Tom Cruise, qui en fait partie, ou une autre aberration issue du christianisme, ou l'une des grandes religions mondiales traditionnelles, les faux systèmes de croyance ont toujours eu le vent en poupe parce que les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas de faire confiance à Jésus, deviennent crédules, prêts à croire n'importe quoi et n'importe qui. Et s'ils n'adhèrent pas à un système religieux reconnu comme tel, ils donnent leur suffrage à quelque chose d'autre. Ils font leur idole du sport ou de la science et surtout de la théorie de l'évolution, afin de trouver un sens à leur misérable existence. En parlant des faux frères, Pierre nous interroge quand il dit que « ils renieront le maître qui les a rachetés ». Comment ces imposteurs religieux qui sont parmi les croyants et que le Seigneur a rachetés peuvent-ils connaître une ruine spirituelle et la perdition ? Comme il est exact que le mot pour « racheter » veut bien dire « racheter » et rien d'autre, ces paroles de Pierre font les choux gras de ceux qui pensent qu'un croyant authentique peut perdre le salut. Mais un tel point de vue contredit beaucoup d'autres passages des Écritures, ce qui le rend inacceptable. En réalité, Pierre dit que Jésus a payé la dette des imposteurs sur le calvaire comme il l'a fait pour tous les autres humains. Oui, mais cette rédemption n'est efficace et actualisée dans la vie d'un individu que s'il place sa confiance en Jésus. Le paiement réalisé par le Seigneur sur la croix est suffisant et agréé par Dieu. Seulement, les faux frères dont parle Pierre ne se la sont pas appliqués, ils ne l'ont pas accepté. Ils ont entendu et compris le message de la bonne nouvelle, mais ils en ont fait fi. Ils n'ont donc pas la foi qui sauve. Ce passage n'enseigne pas qu'il est possible de perdre le salut. Par contre, il fournit un argument solide en faveur d'une rédemption illimitée, c'est-à-dire que Jésus est mort pour tous les hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cela n'est vrai qu'au niveau terrestre qu'il faut soigneusement différencier au niveau céleste. En effet, dans sa souveraineté, et même avant la fondation du monde, Dieu a décrété qui seraient les élus, c'est-à-dire ceux à qui serait appliquée l'expiation accomplie par Jésus. À ce niveau de logique, c'est-à-dire dans les cieux, la rédemption est illimitée aux élus, mais sur la terre, à un autre niveau de logique, et comme je l'ai déjà souligné, la rédemption est illimitée si vous connaissez la théorie mathématique des types logiques. Vous comprendrez ce que je dis. Sinon, faites-moi confiance.